Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. Aujourd'hui, seconde émission consacrée à l'édition 2022 des Correspondances, une émission préparée et présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et nous sommes au cœur des Correspondances de Manosque. Le festival littéraire a été inauguré hier de belle manière et c'est notre deuxième émission consacrée à l'événement de l'automne. Au sommaire de cette heure manosquine, comme d'habitude en ouverture, le programme du jour par Olivier Chaudançon. Nous entendrons aussi le comédien Raphaël France-Kuhlmann à propos du karaoké littéraire, ainsi que Sarah Masson, jeune écrivaine en résidence à Gréoux et qui donne une lecture aujourd'hui à Manosque. Nous avons aussi plusieurs invités en plateau, le président des correspondances Didier Lebret est parmi nous et nous avons appris une excellente nouvelle hier lors de l'inauguration officielle, vous en saurez plus dans un instant. Enfin, nous accueillons deux auteurs de cette édition 2022, Mona Messine qui signe Biche, un conte écolo aux saveurs hitchcockiennes, et nous attendons Miguel Bonnefoy qui lui s'est penché sur l'inventeur. Tous les ingrédients sont réunis pour un beau moment de radio. Merci à tous d'être des nôtres sur Fréquence Mistral. Et comme de tradition, Olivier n'est pas très bien réveillé aujourd'hui. C'est au tour d'Olivier Chaudançon, comme d'habitude, de présenter le programme de la journée. Olivier Chaudançon, ça y est, les correspondances 2022 ont démarré.
Elles ont démarré sous le signe de la Russie hier soir et aujourd'hui nous allons entreprendre un nouveau programme à 11h avec le labo de l'édition. Alors le labo de l'édition, certains connaissent déjà, il s'agit de se mettre dans la peau d'un éditeur. L'éditeur c'est les éditions du Typhon qui donne au comité de lecture de Manosque quelques manuscrits en disant lisez ces manuscrits et dites-nous si vous pensez qu'il vaut la peine de les publier, oui, non, ou alors faut-il les faire retravailler. Voilà, donc c'est un exercice passionnant. Et je peux ajouter que c'est une démarche qui a intéressé pas mal d'établissements scolaires, donc il y a aussi des classes qui vont se joindre à cette réflexion et cette lecture collective qui devient un rendez-vous incontournable des correspondances. Et puis l'après-midi se démarre traditionnellement avec une sieste, pour ceux qui ont envie de se détendre un petit peu, les fameuses siestes acoustiques et littéraires de Bastien Lallemand. Il vient en compagnie de quelques musiciens amis et chaque jour, il reçoit un auteur invité du festival. À 15h, un dialogue entre Miguel Bonnefoy et Xavier Mauméjean. Alors Miguel Bonnefoy, je me permets d'en dire quelques mots parce qu'on a un attachement particulier à cet auteur. Il a été en résidence à Manosque. On apprécie beaucoup son écriture et sa verve. Il est franco-vénézuélien, donc je pense que son côté hispano-américain lui donne aussi cette tonalité étonnante. Et là, il revient avec un livre où il va nous raconter une histoire tout à fait méconnue, celle d'Augustin Mouchot, je crois que je n'écorche pas le nom, qui, il y a déjà quelques siècles, a inventé l'énergie solaire. Il a compris avant tout le monde que le soleil, au-delà de chauffer les peaux, pouvait aussi produire de l'énergie. Alors il a inventé les premières machines qui, à partir des rayons du soleil, permettaient de créer de l'énergie, de fabriquer de la glace. C'est paradoxal, mais il faut de l'énergie pour fabriquer de la glace. Mais il a été peut-être trop en avance sur son temps et les machines étaient, il faut le reconnaître, compliquées à mettre en œuvre. Et puis surtout, très rapidement, une énergie abondante est apparue, le charbon. Et donc là, ces machines n'étaient pas du tout compétitives, mais on aurait peut-être dû plus l'écouter car nous serions dans une situation moins préoccupante aujourd'hui si on avait un peu tendu l'oreille à ces réflexions. À 16h30, alors il y a un rendez-vous avec Geneviève Brisac autour de Lettres à Virginia Woolf. Je précise, ça c'est une nouvelle, et hélas que Geneviève Brisac ne peut pas être là parce qu'elle a perdu un proche, donc elle est aux funérailles qui se déroulent aujourd'hui. Par contre, la rencontre n'est pas annulée, d'abord on présentera l'ouvrage, et puis Anne Alvaro, grande comédienne qui a lu hier soir au théâtre Jean le Bleu et qui apprécie particulièrement Geneviève Brisac, a accepté de venir lire quelques lettres de cet ouvrage pour qu'on puisse le faire entendre malgré l'absence de l'autrice. En face, si j'ose dire, à la même heure, place Marcel Pagnol, Fiona Mosley, l'une des invitées étrangères du festival. Nous avons 5 ou 6 auteurs étrangers cette année. Il y en a toujours un peu, mais un peu moins. Donc voilà, c'est une ouverture sur le monde qui arrive sur le festival. Et puis à 18h, alors là, on a l'embarras du choix. Un dialogue entre Claudie Hunzinger et Mona Messine. Ça va parler d'animaux, de biches, de chiens. À 18h également, René Frény. Alors les manosquins le connaissent bien, mais les festivaliers qui viennent d'un peu plus loin, de l'extérieur, auront sans doute la curiosité de l'écouter. Et puis Aurélia Horita, c'est une artiste du graphisme et du dessin. Elle fait des romans graphiques, comme on dit aujourd'hui. Là, elle a fait un roman graphique autobiographique qui parle d'elle, qui parle d'une maladie qu'elle a eue et qu'elle a surmontée, et qui parle surtout de sa passion pour la gastronomie. Ça s'appelle Une vie gourmande. Et elle va d'ailleurs associer à cette rencontre un chef manosquin, Pierre Grain, qu'elle a rencontré la dernière fois qu'elle est venue à Manosque. Voilà, donc on aura quelque chose d'original, rencontre, lecture, dessinée, avec un brin de gastronomie qui s'ajoute à cela. Et je précise qu'à 19h, Miguel Bonnefoy, qui est inépuisable, interviendra à nouveau à l'écomusée de l'Olivier. Et puis en soirée, une grande lecture, Oscar Wilde, écrivain brillant, drôle, auteur de beaucoup de formules inoubliables, et il sera lu par le formidable comédien Nicolas Maury. Et puis nous finirons cette journée de festival avec le chanteur Albin de la Simone, chanteur qui est également dessinateur, puisque c'est lui qui a dessiné le visuel des correspondances 2022. Très beau visuel, je trouve. J'ai l'impression que c'est partagé. J'ai croisé quelques personnes qui me disaient aussi que ce visuel était particulièrement réussi. Alors là, il va nous faire le cadeau d'un format inhabituel. C'est une sorte de concert expliqué. Il va raconter comment il écrit, comment il compose, et il va nous faire suivre titre à titre les chansons de son album.
Olivier Chaudançon, co-directeur du Festival des Correspondances, sur le programme de la journée, j'ai le grand plaisir d'accueillir, après le co-directeur, le président des 1001 Nuits de la Correspondance, Didier Lebret, qui est en nos studios. Bonjour Didier.
Bonjour François.
Merci d'être avec nous. C'est votre deuxième festival en tant que président. Votre sentiment ?
Alors, je suis président un peu par hasard, mais je suis surtout, comme tous ceux qui participent au festival, un lecteur insatiable. Et donc j'ai fait mes devoirs de rentrer. C'est pas des devoirs, c'est un pur bonheur de se plonger dans le grand courant de la littérature. Et j'avoue que j'ai surtout fait mes devoirs avec les premiers romans, parce que j'adore voir voilà qu'est-ce qui monte comme talent dans les nouvelles générations. Et je dois dire, enfin, je pense que les lectrices et lecteurs qui sont à Manosque et d'ailleurs vont s'en rendre compte, il y a énormément de talents sur des thèmes qui sont incroyablement divers. Hein. Enfin, il y a vraiment un peu tout. Enfin, non, on en reparlera. Mais c'est un très bon cru. Je crois que c'est un très bon cru. Je peux en citer. On a déjà
une primo romancière voilà. à nos côtés, Mona Messine, que je vais accueillir dans un instant. Il y a aussi qui passeront sur notre antenne, Paulina Panasenko, ouais, et
Victor
puis
Gestine,
alors Victor Gestin, non, malheureusement, Gestin, il ne pourra pas être des nôtres, mais son livre est très intéressant, ouais, très curieux, très étonnant, L'homme qui danse. Et puis il y a aussi Claire Baglin dont le En salle est remarquable et remarqué actuellement. Donc Claire sera sur notre plateau samedi, ce sera aussi une belle émission. Vous êtes plus tout à fait un néo-président, puisque quand même c'est la deuxième année. Vous avez vu que l'effervescence est là à Manosque. Hein. Franchement, des associations qui se bougent. Tout à l'heure, il va y avoir des scolaires sur la place de l'Hôtel de Ville avec le labo de l'édition. Il y a vraiment une dynamique, et une dynamique qui s'appuie aussi sur les ressources locales.
Absolument. C'est, je crois, un des axes très forts des correspondances. Hein. C'est de à la fois, bon, il y a le temps fort qui est le moment du festival, mais c'est d'irriguer en amont, c'est d'utiliser toutes les ressources du festival, à commencer bien sûr par la résidence d'artistes et les jeunes écrivains qui sont en résidence, mais aussi de travailler main dans la main avec des associations locales, mais qui ont un rayonnement et surtout qui ont inscrit leur action maintenant dans la durée, comme Éclat de Lire, avec laquelle on travaille beaucoup et qui fait énormément. Donc je pense que sans doute d'ailleurs un des signes de reconnaissance de cette action du festival à l'échelle de l'agglo, du département, mais au-delà aussi, c'est la décision qui a été prise par la présidente de.
Alors nous allons en parler, évidemment. Voilà. Évidemment, un moment fort hier lors de l'inauguration. Généralement, je ne vais pas vous cacher que pendant les discours officiels, on compte les oiseaux, nous les journalistes, et on s'en fiche un petit peu. Mais tout d'un coup, la présidente du département, Eliane Bareille, pour qui nous avons beaucoup d'estime, a déclaré que le département des Alpes de Haute-Provence allait soutenir plus fortement le Festival des Correspondances, donc votre association, et allait signer une convention aussi pluriannuelle, donc sur 3 ans, une convention triennale. Je suppose que ça vous a fait plaisir.
Ça, c'est vraiment une reconnaissance très très forte du travail qui a été accompli maintenant dans la durée. On est à la 24e édition, bientôt un quart de siècle de festival, ce qui n'est pas si fréquent. Beaucoup de festivals passés 10 ans s'épuisent, ont du mal à se renouveler. Donc voilà, moi je le prends vraiment comme une reconnaissance de ce travail. Je crois que ça correspond aussi à une vision de la présidente et de son conseil à un moment où on sort tous un peu fatigués d'une période qui a été très éprouvante et où l'horizon n'est pas non plus extraordinairement simple pour personne. Dire que la culture, c'est quelque chose qui peut nous rassembler, c'est quelque chose qui peut nous engager collectivement et surtout créer du lien, parce que c'est quand même de ça dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est un acte politique assez fort. Après, le festival des correspondances, il a cette particularité, c'est que il est sobre à tout point de vue. C'est-à-dire que on est souvent cité en exemple comme étant un festival qui réduit le plus possible ses coûts, qui associe beaucoup de bénévoles. C'est aussi ce qui fait que les coûts baissent, c'est quand vous avez beaucoup de bénévoles. Et si vous avez beaucoup de bénévoles, ça veut dire que le festival embarque beaucoup de gens qui sont contents, fiers, heureux d'être avec nous. Et voilà, je crois que c'est aussi tout ça. Alors, on en avait vraiment, vraiment besoin, hein, parce que tous les coûts explosent. Là où on pouvait louer 2 voitures, on peut en louer qu'une. Enfin, les coûts ont explosé, littéralement. Donc, voilà, je pense que ça arrive vraiment à un bon moment. Et 3 ans, c'est aussi une façon pour nous de nous inscrire dans la durée.
Dans la durée, oui.
Donc ça, c'est super.
Avec également sur scène, il y avait hier Alain Delceau, qui est délégué à la culture du département. Et puis le maire Camille Galtier aussi, qui est conseiller départemental et qui, je suppose, a dû acter et puis aider un petit peu à la décision de ses collègues au niveau du département. Donc c'est une bonne chose. Par contre, personnellement, j'ai regretté l'absence d'un représentant de la région, notamment du vice-président de la région, qui aurait pu, ils sont quand même 3 élus de la majorité, l'autre composante, je n'en parle pas, mais ils auraient pu envoyer quelqu'un, effectivement, représenter cette structure qui vous soutient.
Oui, bien sûr.
Depuis
sûr,
le début,
sûr,
donc ça aurait été, voilà. Ça aurait été une bonne chose.
Bon, après, vous avez vu, c'est quand même beaucoup de monde hein, qui,
bien sûr.
Qui soutient le festival. Il ne faut pas oublier non plus l'agglo.
Financeur essentiel,
oui. Qui fait un travail aussi remarquable et aussi de fond, parce qu'il s'intéresse vraiment à ce qu'on fait. Sandra était là hier et voilà, a redit à quel point c'était important pour eux dans leur politique à l'échelle de l'agglo. Voilà, donc on a la chance d'avoir beaucoup de fées, comme je l'ai dit hier, qui se sont penchées sur le berceau des correspondances. Et voilà, c'est important. Bon, voilà, une absence, une année, ils seront là l'année prochaine.
On l'espère. Si vous voulez avoir mon sentiment, qui est à la fois un acteur originaire du territoire et en même temps qui développe beaucoup de choses en termes culturels et sociaux sur le territoire, c'est une chance et un bonheur incroyable d'avoir les correspondances chez nous. Donc c'est vrai qu'on a... On a un phare à Manos qui s'appelle Jean Giono. On a un phare qui est en train d'émerger, qui s'appelle René Frénier également. Donc c'est une bonne chose, on les connaît bien tous les deux. Je n'ai pas connu physiquement Jean Giono, mais par contre, quelle admiration pour ce grand écrivain majeur du XXe siècle. Et puis, par contre, je connais bien René Frénier. Je connais bien aussi les associations que vous avez citées, notamment Éclat de Lire. Et je trouve que c'est une opportunité pour nous de pouvoir... Vous savez, on a dit pendant très longtemps, les correspondances, ouais, ce sont des Parisiens qui viennent nous apporter. Je m'en fiche complètement. Profitons de la venue de Mabankou, profitons de la venue de Yannick Enel, par exemple, et des primo-romanciers qui sont choisis par des gens qui, certes, sont à Paris, mais qui aiment, comme moi, la littérature. Donc, profitons-en. Et puis... Si on peut écouter René Frénier avec sa verve particulière, Miguel Bonnefoy aussi, eh ben profitons-en aussi.
Donc, de toute façon, un Parisien, ça n'existe pas. On vient tous de quelque part, on passe un moment par Paris, on retourne parfois dans son territoire d'origine. Voilà, je veux dire, la quasi-totalité des jeunes auteurs qu'on a invités sont pas nés à Paris. Ils sont venus et ils auront une vie, avant, ils en auront une vie après. Voilà, il faut sortir un peu de ce type de vision.
Oui, c'est Brassens qui chantait ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Donc bon, moi je ne dis pas où je suis né, je ne suis pas né à Manos. Donc c'est déjà pas mal, mais je suis manosquin. Je me revendique manosquin, provençal, européen, et puis citoyen du monde, tout simplement, quoi. Mais d'un monde qui hier a beaucoup parlé d'ailleurs, puisque la première rencontre était une rencontre... Oui.
Avec Igor Gran.
Vraiment politique, quoi, sur le livre de Igor Gran qui pose la question de la propagande russe, et ça tombait à un moment particulier, au moment où Poutine déclare une mobilisation partielle dans son pays pour aller en Ukraine. Non, mais
pour moi, c'est plus ce livre, c'est plus qu'une tentative de comprendre les mécanismes de propagande, parce que ça, à la limite, on les démonte assez facilement. C'est un livre qui a le courage de mettre les pieds dans le plat en disant un pays ne peut pas fabriquer quelqu'un comme Poutine s'il n'y a pas à un moment une adhésion forte de toute sa population. Et ça, on n'ose pas le dire. Parce qu'on a dissocié les deux. On a dit les Russes sont formidables, ils ont juste le malheur d'avoir des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. En fait, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il s'est passé quelque chose après l'effondrement du mur de Berlin et qu'il y a eu une incompréhension très forte d'une grande partie des Russes par rapport à ce qui s'est passé. On a peut-être trop célébré une forme de victoire qui pour eux n'était pas une défaite, en tout cas. Ils ont eu le sentiment, pour certains d'entre eux, que les choses n'allaient peut-être pas aussi bien et aussi vite qu'ils l'imaginaient. Mais de là, si vous voulez, à donner un blanc-seing à toute la population russe en disant ils n'y sont pour rien, non, ils cautionnent aujourd'hui. Alors il y a bien des gens qui manifestent et qui vont se retrouver en prison. Il y a une minorité résistante dans ce pays, mais il y a une majorité quand même qui soutient ce régime. Donc c'est bien que Igor Gran mette les pieds dans le plat et explique et donne aussi les ressorts et les mécanismes d'adhésion de la population au régime.
Et c'est vrai que c'était assez pas fréquent du tout, quoi, sur la place de Manos, tout d'un coup, à l'ouverture des correspondances, on a parlé d'autre chose que de la littérature aussi. Et donc, tout d'un coup, on a été confronté à une actualité qui est dramatique.
Après, le destin du peuple russe est un destin littéraire. On est dans la tragédie en permanence, on est dans une expression d'une forme de singularité qui le peuple russe vit comme un peuple messianique. C'est-à-dire que c'est un peuple qui pense qu'il a quelque chose à apporter à l'humanité. Aujourd'hui, il ne sait pas exactement quoi, mais cette singularité l'enferme. Et c'est ce que Igor Gran explique bien. Et Poutine, ça a été une espèce de catalyseur de cette singularité qui aujourd'hui a pris beaucoup la forme d'une frustration. Et c'est ça qui est terrible, dangereux et triste.
Avec aussi la violence qu'on voit tous les jours sur nos écrans et malheureusement avec les Ukrainiens qui se battent un petit peu comme les Français le faisaient en 40 et 44, quoi. Donc, bon, une pensée politique et en même temps une pensée humaniste envers ce peuple qui se bat pour sa liberté contre l'agression des Russes. Fermons la parenthèse, on va retourner à Manosque pour des choses beaucoup plus légères et en même temps très, très intéressantes. C'est tout simplement le karaoké littéraire. C'est une tradition dans ce festival, bientôt une institution peut-être. Il est animé par Raphaël Franz Kuhlmann. C'est un spectacle étonnant et il aura lieu demain sur la place Marcel Pagnol à 11h. J'ai interviewé Raphaël France-Kuhlmann. Non, c'est demain, pardon, je me reprends. C'est bien demain. J'ai interviewé donc Raphaël Kuhlmann il y a quelques jours, qui nous explique tout ça. Je vous confirme la date à la fin de son interview. Raphaël France-Kuhlmann, vous présentez le karaoké dans le cadre des correspondances. En quoi ça consiste et comment est-ce que vous préparez cet événement ?
Alors, le karaoké littéraire est un événement lors duquel le public est invité sur la scène pour découvrir un texte que j'impose à un lecteur ou à une lectrice. Cette personne va donc découvrir un texte, le lire en public pour la première fois, accompagné par un musicien, Olivier Vauquelin, qui improvise sur la lecture des gens.
Et tout ça en public, c'est quand même une difficulté particulière.
Tout ça en public, oui, la difficulté c'est d'avoir effectivement une personne sur la scène et qui va elle-même découvrir un texte qu'elle ne connaît pas, ou peut-être qu'elle va connaître d'ailleurs, hein, c'est possible aussi, mais a priori elle ne le connaît pas, et puis c'est de le lire comme ça, à chaud ou à froid, comme on dit, face au public, oui, pour des gens c'est quelque chose, oui, c'est pas rien, mais vous me demandez aussi comment je prépare cet événement. Je fais la sélection des textes en question. Cette année, ce sera des textes issus de la rentrée littéraire, évidemment, mais aussi des textes issus de livres pour jeunesse, parce que c'est un moment où la jeunesse aussi, là, est fortement conviée.
Alors effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui participent à ce karaoké littéraire. En même temps, ça met une ambiance assez extraordinaire.
Ça met une sacrée ambiance, oui. Après, c'est toujours un peu délicat avec la jeunesse aussi. Ça l'est moins avec les petits, c'est-à-dire les primaires, élémentaires, enfin avant le collège, c'est plutôt efficace pour faire venir les jeunes sur le plateau. Ils ont faim, ils ont la dalle, ils ont envie d'y aller, de venir. Même, j'ai même un exemple très fort d'un jeune garçon qui ose monter sur la scène alors qu'il lisait très très mal. Voilà, c'est comme ça, tout le monde s'en est aperçu, il lisait très très mal. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire qu'il avait d'énormes difficultés à lire. Et il a réussi à surmonter ça pour le faire en plus face au public, enfin... C'était assez incroyable. Donc pour là-dessus, les enfants, c'est fort ce qu'ils peuvent donner comme énergie. Et puis après, les collégiens, ça roule super bien aussi avec eux quand même. C'est plutôt efficace. Puis après, il y a les lycéens. Là, c'est un peu plus complexe pour les faire venir. Tout part aussi de cette ambiance que nous, on peut mettre avec le musicien sur le plateau, d'être un peu comme à la maison surtout, et très détendu en fait. C'est très
important. Il y a un côté stand-up.
Il y a un côté un peu stand-up, enfin dans le sens où, être là tout de suite, maintenant, spontané, frais, sans jugement aucun, c'est le partage des mots et de la lecture, quoi.
Retour en plateau après ce karaoké littéraire que je vous conseille, auquel je vous conseille d'assister. Ce sera bien donc demain, vendredi 23, sur la place de l'Hôtel de Ville à 11h, avec l'accompagnement du musicien Olivier Vauquelin et puis bien sûr la présence d'une centaine de lycéens manosquins, dont des élèves de l'école internationale. Ça promet vraiment d'être une belle, belle chose. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Mona Messine. Bonjour Mona.
Bonjour.
Vous avez écrit Biche, qui est édité par Livres Agités. Nous parlerons de cette maison d'édition très particulière. C'est un roman naturaliste qui nous plonge au cœur d'une forêt et mêle hommes et animaux, protecteurs et agresseurs. Le personnage principal, c'est Biche, sans article, comme pour Salambo, Columba ou encore Angelo. Grâce à l'autrice, on est dans sa tête et dans ses muscles. Au sein d'une harde, elle protège les jeunes fans pendant que les mâles dominants brament et se battent, mais pas seulement. L'action principale se déroule en quelques heures avec des flashbacks dans la vie des personnages. Le décor, c'est une forêt et le livre s'articule sur une battue de chasseurs Alan, un gentil garde forestier, veut sauver les animaux des chasseurs et de leurs rabatteurs jusqu'à la fin, où se noue un drame paroxystique violent. Chez les chasseurs de Gérald, macho primaire qui semble né un fusil à la main et la mort en boîte d'oulière, à Basile, un gamin qui tue sa première caille et réussit donc son chemin initiatique, il tuera plus tard un autre animal, mais pas un gibier, je n'en dis pas plus. De Gérald à Basile, donc, les chasseurs semblent être un groupe uni par la passion cinégétique, hors duquel évolue un autre personnage important, Linda, qui n'a pas le droit de chasser, mais qui dirige les rabatteurs. Elle convoque ça, ou plutôt ses vies amoureuses, à ses battues sous les arbres. De ces croisements de personnages au milieu de la forêt, la mort aura le dernier mot après une nuit d'attente et d'angoisse par un dénouement sanglant. Première question, Mona Messine, connaissez-vous l'univers de la chasse ?
Je connais très peu l'univers de la chasse et je l'ai observé derrière mes fenêtres, puisque j'ai grandi dans la région, dans le Vaucluse, et je voyais depuis chez moi des forêts dans lesquelles j'allais me promener et dans lesquelles je jouais beaucoup quand j'étais enfant. Donc je connais beaucoup plus l'univers de la forêt que celui de la chasse, et je voyais avec terreur des chasseurs sortir de la forêt, leurs fusils en bandoulière, leurs chiens, et on avait très peur avec mon frère de se faire tuer nos petits chats, ce qui est déjà arrivé et qui a sans doute généré un sentiment d'angoisse vis-à-vis de la chasse de ma part.
Il y a d'ailleurs un clin d'œil à cette crainte, puisqu'il y a un chat qui est tué par un chasseur, à un moment, un apprenti chasseur, disons, dans votre livre.
Tout à fait.
C'est particulier. Biche, c'est un premier livre nourri d'observations de la nature, végétale et animale, sans oublier les comportements humains.
Les comportements humains ou animaux, hein, on peut se demander aussi parfois. C'est vrai que j'avais envie de restituer toute cette sensorialité végétale que j'ai pu trouver dans la forêt, moi. J'aime aussi l'idée d'une promenade qui va s'intensifier un petit peu. D'abord parce que c'est un jour d'équinoxe, ensuite parce qu'il se met à pleuvoir, parce qu'un chasseur se perd et que toute cette dramaturgie va augmenter un petit peu. C'est une matière extrêmement romanesque aussi. C'est un endroit, la forêt, dans lequel on peut puiser beaucoup, beaucoup de tensions et en même temps d'éléments, d'objets narratifs qui vont pouvoir permettre de conduire une histoire, ce qui est un exercice très intéressant quand c'est un premier roman. Et les comportements des chasseurs, qui ne sont pas tous unis d'ailleurs, on peut le voir à certains moments, m'ont permis aussi de développer ces destins de personnages qui font que l'histoire se construit un petit peu comme une tragédie, avec Linda qui effectivement va ne pas avoir le droit de chasser, mais avoir un rôle assez primordial dans cette chasse. Et puis Gérald qui se perd dans la forêt et dont les comportements vont s'apparenter peut-être à de la survie, à de la protection par rapport à ce qu'il connaît, à ce qu'il a envie de faire, à son essence de personne, de personnage, qu'il soit humain ou animal finalement.
Alors vous l'avez dit, Linda c'est une rabatteuse, elle n'a pas le droit de chasser, alors que c'est une Diane chasseresse aussi. Donc il y a une frustration quelque part qui va s'exprimer et qui la hante de toute manière. Elle a appris à chasser au Québec où on chasse les ours et pas les biches, et encore moins les cerfs. Donc bon, c'est un petit peu particulier. Justement, le premier extrait que je vais lire de votre livre, c'est un extrait qui est consacré à Linda. Elle est seulement, elle, la chef des rabatteurs. Au détour d'un sentier, elle vit accrochée à des branches une minuscule touffe de poils à hauteur d'animal. Surprise, elle fit signe à un enfant de s'en emparer. L'enfant s'exécuta aussitôt et lui tendit triomphant les poils d'une biche. Ce n'était pourtant pas la période de mue. Aucun gibier n'avait encore commencé à produire son pelage d'hiver, pas même les chiens autour des chasseurs. L'une des biches était malade ou blessée, c'était l'alternative. Ces sales animaux marquaient souvent leur territoire d'excréments, de végétaux ligneux rongés sur leur extrémité. C'était maintenant par des fragments de peau qu'elle s'y mettait, vermine. Son envie de les mater redoubla. Ouh là là, mais c'est violent tout ça, Mona.
C'est un peu cruel, effectivement. Oui. Effectivement. Alors Linda, c'est vrai qu'elle elle n'aime pas trop les biches. Sans voir, et c'est là tout le drame peut-être de son personnage, sans voir qu'elle aussi est empêchée, comme les biches, qu'elle serait peut-être de celle à protéger, ou en tout cas de celle à qui on empêche et on interdit de faire des choses.
Alors dites-moi, on est loin quand même là des déclarations des chasseurs qui nous disent protéger la nature, aimer les animaux. Vous avez eu des réactions de la part d'associations de chasse à votre livre? Pas encore peut-être.
Alors, ça serait des réactions que j'aimerais bien connaître justement et j'aimerais bien discuter avec des personnes qui pourraient ne pas être d'accord. D'abord parce que j'ai fait aussi un travail de recherche et que peut-être simplement j'ai fait des erreurs et j'aimerais bien aussi avoir peut-être des regards sur ce que j'ai pu produire par rapport à la chasse. C'est vrai qu'on me dit surtout que c'est un petit peu manichéen. Ce avec quoi je ne suis pas forcément d'accord, puisque je trouve qu'il y a quand même, du côté de Gérald, un certain amour de la nature, malgré tout. La chasse, ça représente quand même aussi une tradition, ça représente des échanges familiaux, ça représente un goût pour la gastronomie peut-être, une attention à la nature pour les saisons. C'est des connaissances qui sont très importantes aussi. Je pense une grande partie des chasseurs possèdent un savoir qu'il faut absolument préserver. Et de fait, moi, j'ai pas un regard complètement frontal avec cette pratique. J'ai un regard frontal avec la brutalité et avec la violence. Et Linda le possède aussi, cet aspect de force, d'envie d'écraser les animaux. Et de fait, je suis plus en confrontation avec le regard de Linda, par exemple, qu'avec un regard qui se voudrait protecteur envers les biches.
Alors évidemment, il y a des personnages, vous allez vraiment au cœur des personnages, et puis évidemment le personnage principal, c'est-à-dire Biche, c'est presque un être humain, parce qu'elle réfléchit, elle parle, elle est protectrice par rapport aux jeunes fans, elle fait attention aussi au chef dominant, c'est-à-dire au cerf, et puis évidemment elle a vu le chasseur, et il y a une connivence très particulière dont l'issue est la mort, entre elle et le chasseur, et c'est assez, assez spécial. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de votre livre, et là on est dans la psychologie et la psyché de Gérald, le chasseur. Gérald avait grandi dans cette région qui pratiquait la chasse écologique, heureux que sous ce nom se cache son loisir préféré, la chasse tout court. Prélever un certain nombre de bêtes chaque saison permettait de rappeler aux espèces qui avaient le dessus, d'éviter qu'elles se répandent et se cannibalisent, qu'elles prennent toute la place, un peu comme avec son ancienne compagne, se disait Gérald. La différence, c'est qu'on ne pouvait plus dire une chose pareille quand il s'agissait d'une femme. Alors là, on est vraiment dans la logique féministe qui peut vous animer et qui doit vous animer, Mona.
Oui, beaucoup. C'est vrai que ce livre Biche est quand même une allégorie, bien sûr. La biche, tout ce qu'elle souhaite, c'est passer une journée tranquille dans la forêt avec les fans. C'est le dernier jour de l'été, donc il y a des rayons de soleil. Nous aussi, là, on est en septembre à Manosque, il fait beau. Et ce qu'on a envie de faire, c'est tout simplement profiter, boire un peu d'eau dans le ruisseau, se promener, profiter des arbres. Et on l'empêche, encore une fois, c'est une question d'absence de liberté. Les chasseurs arrivent, elle a peur et elle doit s'occuper de survivre, elle doit s'occuper de protéger les autres, elle doit s'occuper de manger avant qu'elle ne puisse plus, et elle doit s'occuper de s'échapper, de se cacher. C'est injuste, quelque part, de ne pas la laisser faire sa vie, c'est du temps perdu, c'est du temps de vie perdu. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, dans les sujets féministes en tout cas, c'est du temps perdu. De s'occuper, de se protéger, de réclamer, de se bagarrer, alors que la plupart d'entre les personnes victimes auraient simplement voulu traverser leur journée simplement.
Donc c'est un livre où il y a un message particulier, humaniste, naturaliste aussi, sur effectivement la nature, voire l'écologie, et puis bien sûr la place des femmes dans notre société. La fin du livre, de votre livre, elle est en totale tension, elle est dramatique. Gérald vise la biche longuement, Linda, elle, veut le retrouver, et Alan, le jeune garde forestier, veut sauver l'animal. Je n'en dirai pas plus, car il y a du suspense avant la violence. Mona Messine, Biche, c'est votre premier roman. D'où vous vient le besoin d'écrire?
C'est une immense question à laquelle je n'ai aucune réponse tangible. Ça vient de quelque part mystérieux pour moi. Ça vient d'une envie peut-être de cette liberté justement, puisque la littérature permet tout. Vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a des épisodes qui ne sont peut-être pas vraisemblables, mais en même temps, si je ne pouvais pas écrire ce qui était faux ou inexact, je n'écrirais pas. Donc c'est vrai que ça vient peut-être d'une envie de traverser ce mystère de la vie, de voir des surprises arriver. Ça vient d'une envie de faire tout ce qui me passe par la tête, tout simplement.
Les épisodes qui n'existent pas et qui sont peut-être le fruit de votre imagination, mais une imagination très positive, c'est par exemple deux grands cerfs qui, au lieu de se combattre les bois en avant et d'aller peut-être jusqu'à la mort d'un des deux, eh bien, se bécotent dans un coin devant un Gérald qui est... Non, Gérald n'est pas là, heureusement, mais il est là. Et il est surpris de voir cette scène assez incroyable, alors que lui voudrait simplement retrouver la logique de la chasse, c'est-à-dire moi chasseur, toi gibier, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est assez particulier. Et il y a un personnage pour lequel vous avez une immense tendresse, ça se sent dans ce livre, c'est Alan.
Oui.
Alan, le jeune garde forestier. Alors, on oubliera ses émois amoureux, ça nous intéresse, enfin, en tout cas moi ça m'intéresse un petit peu moins. Par contre, vous dites des choses sur sa volonté, puis sa manière de travailler. Il est d'ailleurs écarté par les chasseurs lors de la battue, écarté par les gendarmes lorsqu'ils vont avoir à intervenir à la fin du livre. Et voilà ce que vous dites par exemple à la page 32. « Alan, veine brindille au milieu des grands arbres, sauveur de faisans fous, garde forestier ivre de son métier, rempart des biches contre le monde humain. » Si c'est pas de la tendresse, ça?
C'est de la tendresse, mais c'est de la tendresse dans un paysage tragique. Donc c'est une tendresse vers quelqu'un qui va peut-être échouer, parce que tous les éléments tendent vers le fait que l'issue de la chasse, elle est irrémédiable. Il y a un chasseur, une biche et un fusil. On sait ce qui va se passer quelque part. Et c'est vrai que Alan essaye malgré tout. Donc j'ai effectivement un regard de tendresse envers les gens qui essaient de contrer la fatalité, contrer le destin. Et de tendresse d'autant plus forte qu'on se doute que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'actualité avec tous les drames dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi tous les sujets autour du féminisme. Il y a tellement de gens qui essayent et qui ne parviennent pas. Et il faut de la tendresse entre toutes ces personnes-là, entre les victimes, entre les gens qui essayent. Et peut-être qu'on va arriver à quelque chose, peut-être pas. Aujourd'hui, on est au pas, justement. On est à l'absence de solutions concrètes. Et il faut se protéger et se motiver de continuer à essayer. Et Alan, pour moi, représente cette volonté. Il sait qu'il ne va pas réussir. Il le sait, il les a vus, les chasseurs. Il les a vus passer, il sait qu'ils sont... j'allais dire affamé peut-être, et ils ont un but, et il sait qu'il est tout seul face à eux, et il va tenter des choses qui sont à la fois réfléchies, qui sont dans ses possibilités, puisque c'est son métier, notamment de modifier des petits trajets sur la forêt par exemple. Mais c'est vrai que c'est faible par rapport à la mort et au coup de fusil qu'il y a en face. Pourtant il le fait, et pourtant il le fait tous les jours sans s'arrêter, parce qu'il a envie, voilà, de contribuer. On sait pourquoi dans le livre, il a une histoire familiale aussi par rapport à ça, et il ne s'arrête pas, et il le fait tous les jours, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et c'est pour ça que j'ai de la tendresse envers ce personnage, oui.
Il y a aussi le facteur temps qui joue, c'est-à-dire qu'un coup de feu et une biche ou un cerf qui s'affale, c'est très très rapide. Par contre, protéger la forêt et puis pister les biches et éviter, essayer de les diriger dans un endroit pour qu'elles évitent et qu'elles échappent aux chasseurs, c'est un travail de longue haleine. Et vous l'avez dit, en plus, depuis son enfance, il est marqué par un film, hein, évidemment, tout le monde l'a en mémoire, c'est Bambi, la mort de la mère du Fan. Et en même temps, il s'est dit, il a donné un sens à sa vie avec ce film, et puis il essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Il sera écarté, je ne dirai pas ce qu'il en est jusqu'à la fin, mais justement cette fin, vous êtes une adepte d'Alfred Hitchcock?
Alors je connais, mais je n'ai pas forcément pensé à Alfred Hitchcock en écrivant ce livre. Je serais plutôt côté Tarantino.
Oui, c'est plus moderne. Alors, hein, c'est plus votre génération. Mais,
génération, bon. Oui, mais Hitchcock est moderne quand même.
Ah,
même
oh là
aujourd'hui.
Là.
Hein,
oh là là, oui.
Oui.
Celui qui ne frissonne pas en regardant Psychose, voilà. C'est pas un être humain, c'est pas possible.
Voilà.
C'est pas possible. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a, cette espèce de crescendo à la fin sur l'action, et en même temps, on se dit, mais quelles leçons tirées de biche? Ben, on vous laisse juger. Hein, on laissera le lecteur penser ce qu'il veut de ce milieu particulier, des chasseurs, mais aussi des protecteurs de la nature, mais aussi des gens qui négligent un peu les femmes, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis, en même temps, c'est un livre qui est paru sur une, si j'ai bien compris, une toute jeune maison d'édition qui s'appelle Livres Agités. C'est une maison militante.
C'est une maison engagée, oui. Engagée pour l'écologie, la justice sociale et le féminisme. C'est une maison qui a été fondée par Vanessa Caffin, mon éditrice, et Jeanne Thirier, son associée, cette année, en fait l'année dernière, puis le temps qu'on sorte le livre, voilà. Biche est le premier roman de la maison d'édition, et la maison s'engage à ne publier que des primo-romancières.
C'est une excellente chose. Et puis bon, à nos côtés, Didier Lebret a lu également Biche. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier, de ce premier roman particulier?
Je dois faire un aveu. Je n'ai pas encore lu. Il est sur ma table de chevet. Je vais m'y employer.
Ah, en tout cas, je pensais que vous l'aviez lu.
Mais en tout cas, le dialogue que vous avez eu m'a profondément à la fois intéressé et touché. Moi, ce sur quoi j'aurais envie de lire le livre, mais surtout de rebondir sur cette histoire de violence. Parce que je trouve que c'est... Je vois aussi une réflexion sur la violence, elle a toujours une profondeur. Enfin, je veux dire, c'est quand les chasseurs vous expliquent que c'était un privilège autrefois des nobles et que c'est quelque chose qui a une dimension sociale très forte. Dans la chasse, il y a la réappropriation d'une violence de classe qui était imposée sur le tiers-état qui pouvait rien faire. Mais la violence des hommes, elle vient souvent, on l'a vu hein, dans beaucoup de cas extrêmement concrets, les abus, qu'ils soient sexuels, intrafamiliaux, incestuels, tout ce que vous voulez, il y a souvent un écho très, très lointain. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce type d'ouvrage, en tout cas la façon dont vous en avez parlé, c'est aussi une interrogation sur... d'où vient la violence, qui est toujours associée à des choses. Pour les Grecs, les Irénies, la tragédie, elle avait aussi cette dimension implacable qui faisait qu'on ne s'en sortait pas, parce que la violence appelait la violence. Dans la vie, il y a de la violence. La naissance, c'est un acte de déchirement. On est séparé tout d'un coup de ce qui constituait l'environnement idéal, pas plus parfait que le ventre d'une mère, et on en sort... On est expulsé, on hurle. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que au fond, on n'en a pas fini avec l'histoire de la violence. L'homme, il est à la fois, sans doute, il a des prédispositions à une forme de bonté, d'empathie, de coopération. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, qu'on n'est pas du tout, comme le décrit la doctrine libérale, uniquement des machines vouées à la compétition et à annihiler son proche. Mais on a aussi cette dimension, et ce que je trouve intéressant dans le débat aussi sur le féminisme, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction du pourquoi d'une forme de violence. Qu'est-ce que c'est que la domination? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir abolir ou pas? Et comme vous parliez d'une maison engagée pour des causes, vous l'avez cité, sociales, féministes, etc., à la fin, il faudra aussi faire quelque chose de cette question. Qu'est-ce que c'est que dans la vie des hommes, dans notre psyché, que la violence? Est-ce qu'on peut devenir des agneaux? Ma réponse, c'est non. Mais ce qu'on peut, c'est domestiquer cette violence et faire de cette violence quelque chose qui soit aussi positif. C'est-à-dire qu'il y a une forme de violence qu'on peut détourner. La création est un acte aussi de violence. Vous vous arrachez à quelque chose qui va de soi, qui est naturel, et vous produisez, vous disiez vous-même la fin de votre ouvrage à quelque chose aussi d'inattendu, peut-être même de violent, mais cette violence, vous lui avez donné un sens.
Et c'est vrai qu'il faut en parler. Et c'est bien justement d'en parler ici dans un plateau radio, de dire tiens, on a une fiction, il y a de l'imagination, il y a aussi du sens, il y a beaucoup de sens dans votre livre. Et puis effectivement, on est dans un moment clé, notre société est en train d'évoluer. On sait que on ne peut plus dire certaines choses, on ne peut plus faire. L'extrait que j'ai lu tout à l'heure concernant Gérald est révélateur. On ne peut plus dire, faire certaines choses. C'est bien, mais il n'en demeure pas moins que ça va aussi, par ailleurs, créer des frustrations supplémentaires. Donc, à un moment, il faut raison garder et puis se dire, bon, ben, où on va, qu'est-ce qu'on fait, et essayons d'être honnêtes, c'est difficile. Mona Messine, on va revenir sur Manosque, si vous voulez bien, après ces considérations. Merci Didier d'avoir partagé votre réflexion sur ces sujets. Vous êtes ici à Manosque peut-être pour la première fois. quoique vous êtes voisine aussi, puisque vous habitez dans le Vaucluse, vous nous l'avez dit, comment vous voyez les rencontres avec les lecteurs et puis ce festival ?
Alors, je les vois d'un œil de primo-romancière, forcément. C'est vrai que être confrontée à ses lecteurs ou futurs lecteurs, puisqu'il y aura, je pense, les deux, c'est très, très intéressant pour quelqu'un qui vient de sortir son premier roman. D'abord parce que je vais pouvoir engager des discussions, répondre aux questions, comme on disait tout à l'heure, et puis comprendre aussi ce que dégage peut-être mon livre, parce que quand on est plongé dedans, on a des certaines vues dessus, et de fait, peut-être que certaines autres personnes en ont des très différentes. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer avec ça. J'ai hâte aussi de rencontrer d'autres écrivains. Ça, c'est un petit peu le côté rentrée des classes pour moi, peut-être, que j'apprécie beaucoup. Et puis, voilà, passer quelques jours au sein d'un endroit où va vivre la culture, où vont vivre les mots, les textes, et puis la musique aussi, ça c'est vraiment agréable. Et c'est très agréable de se sentir soutenu comme ça par les acteurs locaux, par la ville, par les bénévoles qui travaillent pour que tout ça se construise.
Bien, on vous souhaite de belles rencontres à Manosque. Merci. Et il y en aura très certainement. En tout cas, il y en a déjà une ici pour ce qui me concerne. Et en même temps, je pense que vous allez aussi être questionné sur votre livre, sur Biche. Et ce sera en compagnie de Miguel Bonnefoy. Vous avez beaucoup de chance parce que Miguel nous a fait bon, faux bon aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose. Et puis, sauf s'il arrive dans les 10 dernières minutes, on ne sait jamais avec Miguel Bonnefoy. En tout cas, son livre est magnifique aussi, oui. L'Inventeur. Vous avez lu plusieurs des romans des personnes qui sont, des auteurs qui sont invités à Manosque ?
Alors là, je viens tout juste de lire L'Inventeur, justement, et puis Un chien à ma table de Claudie Hunzinger, que je vais retrouver tout à l'heure en rencontre.
Donc c'est bien, et puis vous allez assister, je suppose, à plusieurs rencontres à Manosque. Vous allez flâner comme nous.
Exactement.
Quand on peut le faire, parce que bon... On est pris aussi par notre actualité, puis par notre métier. Didier Lebret, rencontrer comme ça des primo-auteurs et puis des acteurs, des comédiens, etc., c'est quelque chose de vivifiant pour un président, je suppose.
C'est plus que vivifiant, moi. C'est des moments précieux, des moments où on va à l'essentiel, donc on a... trop d'occasions de papillonner dans nos métiers, même si on fait des choses passionnantes par ailleurs. Mais ce moment où on va à l'essentiel, qui est la capacité, à la fois ce que vous disiez tout à l'heure, d'imaginer. Et c'est souvent l'imagination des écrivains et des artistes qui permet de penser le monde d'après, beaucoup plus que simplement de prolonger les choses de manière mécanique. Et voilà, c'est un espace de liberté, de rencontre, de... Bon, moi, je suis un peu tombé dans la littérature quand j'étais petit, parce qu'avant de faire ce que j'ai d'abord fait des études de lettres classiques. Donc, j'ai une vraie passion pour la littérature. Et comme tout grand lecteur, pouvoir dialoguer avec des écrivains, les rencontrer, échanger, c'est passionnant.
C'est un pur bonheur, effectivement. Et puis, d'avoir la possibilité d'écouter aussi à un moment sans parler de se servir de cet outil incroyable qui s'appelle les oreilles. Mmh. On oublie d'écouter. Dans notre société, on parle beaucoup, mais l'essentiel, c'est quand même de savoir écouter et puis après de parler. Ça, c'est un petit peu, malheureusement, quelque chose qu'on constate régulièrement. Et c'est vrai que dans les correspondances, il y a des moments d'écoute qui sont passionnants. Je me souviens d'avoir vu sur la place de l'Hôtel de Ville Annie Ernaux parler d'un de ses livres. Dans l'assistante, il y avait pratiquement que des femmes, beaucoup en tout cas. Et quand à la fin de son interview, de cette rencontre, on a posé la question, on a dit « mais est-ce qu'il y a des questions sur la place pour l'auteur ?» Non, il n'y avait pas de questions. Elle avait tout dit, elle était en liaison très intime avec les femmes qui étaient là. C'était pas la peine d'en rajouter par une question, où souvent, vous savez, les questions, c'est « moi, je pense que, moi, je dis que... » Et puis bon, le livre, on s'en fout, quoi. Donc, c'était bien que pour Annie Ernaux, qui est une grande dame de la littérature, qui est d'ailleurs proposée dans le cadre des correspondances, puisqu'il y a un film qui a été réalisé en Super 8 avec son fils, c'est bien qu'il y ait eu ce moment particulier où, non, le public a écouté. Et il a écouté, il n'a pas eu besoin de parler, quoi. À un moment, c'était fantastique parce que c'était, et je pense que c'est une écrivaine majeure de notre littérature, toujours en vie. Et j'ai eu le bonheur de l'interviewer aussi. C'est un grand moment pour moi que d'interviewer des auteurs ici et puis de profiter et également d'avoir assisté à la naissance ou en tout cas l'adolescence de personnes comme Sylvain Prudhomme, Alice Zéniter, bien sûr Olivier Adam, Miguel Bonnefoy, encore lui, et d'autres. Et donc c'est vrai que c'est un bonheur et qu'il faut partager, qu'il faut savoir savourer ici même à Manosque. Des projets pour vous, Mona? Un livre peut-être?
Bien sûr, plein. Alors j'espère. Plein, plein.
Alors, et un sujet, toujours la nature
Alors, ça ne sera pas un sujet, mais ça sera un décor provençal aussi, parce que je trouve qu'il est très, très riche, ce climat, et ça promet plein de choses. Plutôt côté Alpes-Maritimes, cette fois.
D'accord. Ouais. Pas mal, on lira ça avec grand intérêt. Vous savez qu'ici, à Manosque, on a un auteur remarquable, majeur du XXe siècle. Vous avez lu Giono?
Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'étais plutôt côté Albert Camus, hein, dans le Vaucluse. Et la lecture de ces auteurs, voilà, déjà met des gros standards. Donc, moi, je me suis éloignée quand même assez vite des classiques. Et ce que je préfère, c'est vraiment les auteurs contemporains. Mais oui, voilà, c'est des auteurs qui parlent de la liberté dont je parlais tout à l'heure. Et qui de l'altérité aussi. Et ça, c'est vraiment des sujets qui vont perdurer et qui seront toujours des énormes points d'interrogation pour tous les écrivains. Donc c'est des auteurs qui accompagnent, en fait, quelque part. Et donc je suis très heureuse d'être dans un territoire où ces auteurs ont parcouru, parce que je pense qu'il y a aussi une sorte d'âme, en fait, des lieux. Et ça se ressent, je pense. Et ça se ressent aussi à travers la transmission auprès des personnes qui vivent ici et qui, du coup, s'attachent à faire vivre la littérature toute l'année.
Vous savez, là où vous êtes assis, à 300 mètres d'ici, Jean Giono est né.
D'accord.
Et à 300 mètres de l'autre côté, il est mort. Donc nous sommes exactement
au milieu.
C'est vraiment très, très particulier. Et d'avoir eu, bien souvent ici même, Jacques Méni, qui était le regretté président de l'Association des Amis de Jean Giono, et Emmanuel Lambert, qui était le commissaire de l'exposition au MUCEM, c'était toujours un moment éprouvant. Évidemment, émouvant, pardon, et évidemment Sylvie Durbet-Giono, qui est la fille de Jean Giono. Je vous signale qu'il y a un portrait d'un grand cerf magnifique, c'est dans Le Champ du Monde, si ça vous intéresse, de Giono, qui est un western provençal, Le Champ du Monde. Hein. C'est un livre particulier, magnifique, et puis bon, ce grand cerf, il est exceptionnel. On arrive à la fin de l'émission, pas de bonne foi. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je lui en voudrais, je lui dirai. Et malheureusement, donc, mais ce sont les aléas du festival. Je verrai Miguel tout à l'heure dans les rues de Manosque. On aura l'occasion de se saluer. Je vais en profiter pour vous remercier, Mona Messine. Bonne continuité, puis bon festival ici à Manosque. Didier Lebret, merci encore d'avoir été présent. Et puis, bonne continuité à la tête des correspondances avec la magnifique équipe qui est autour de vous, aussi bien bénévoles que professionnels. Ils font un travail remarquable et moi, j'essaie de les aider un maximum ici même avec cet outil particulier qui est une radio locale. Merci aussi à Olivier pour la régie. Et on se retrouve demain avec une autre émission. J'aurai le plaisir demain d'accueillir Monica Sabolo pour La vie clandestine. C'est un livre remarquable. Et puis quelqu'un que vous connaissez aussi, c'est Salomé Kinner, qui est écrivaine, qui a été résidente ici à Manosque et qui est actuellement sur le Festival des Correspondances. Elle est modératrice. Et c'est d'ailleurs elle qui a interrogé Yegor Gren pour Z comme zombie, le livre qui parle de la propagande poutinienne. Merci encore, bonne journée, bon festival à tous et profitez des correspondances. « Nous reprenons l'antenne. Olivier vient de me tirer les oreilles, même s'il est loin. Il me dit, nous avons oublié de passer l'interview de Sarah Masson. Effectivement, Sarah Masson, qui est une jeune autrice, elle est en résidence actuellement à Gréoux-les-Bains, au Bégat Théâtre, et elle sera cet après-midi devant la librairie Le Petit Pois à 15h30 avec Hortense Reynal. Donc, nous écoutons Sarah Masson avec toutes mes excuses. Sarah Masson, vous êtes en résidence à la Colle à Gréoux-les-Bains. En quoi ça consiste, cette résidence ?
C'est une résidence de 2 mois d'écriture. J'ai présenté un dossier pour ça, un dossier qui parlait de mon projet de deuxième roman, j'espère pas second, mais deuxième, pour qu'il y en ait d'autres ensuite, qui s'appelle Anna ou quelqu'un d'autre. Moi, j'ai publié un premier roman en 2020 qui s'appelle Le silence après nous. Et donc j'ai présenté ce dossier à la Colle, qui est le lieu dit du Bégat Theater, qui est une compagnie de théâtre, qui propose tous les ans 2 résidences d'auteurs ou d'autrices. En l'occurrence, ce ne sont que des autrices jusqu'à maintenant. 1 au printemps, 1 à l'automne. Et donc moi, je suis là pour 2 mois, septembre, octobre, pour écrire et faire quelques ateliers avec l'école de Gréoux, le collège de Riez, par exemple.
Un croisement autrice et comédien, c'est une bonne chose.
C'est super, d'autant que moi j'ai aussi une expérience en théâtre amateur. Ça fait quelques années que je fais, peut-être 7-8 ans maintenant, que je fais du théâtre en amateur. Et cette année particulièrement avec ma troupe, on a écrit et mis en scène la pièce nous-mêmes. Pardon. On a écrit et mis en scène la pièce nous-mêmes avec notre formatrice. Et donc, c'était l'expérience d'une écriture collective aussi pendant toute l'année autour d'une pièce de théâtre qui était autour du thème de la disparition, qui est d'ailleurs le thème aussi de mon deuxième roman, c'était pas fait exprès. Il y avait des synergies possibles avec le théâtre parce que c'est aussi un médium qui m'intéresse beaucoup.
Vous allez rester plusieurs mois ici à Gréoux et en même temps, vous allez pouvoir écrire et continuer à écrire.
Oui, là je suis vraiment à temps plein à Gréoux tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, jusqu'à début novembre. Il y a une restitution de résidence prévue à la mi-octobre, le 15 précisément. Et donc oui, je suis absolument là pour écrire ce deuxième roman. Je suis entièrement dédiée à ça, avec la particularité à la Colle de rencontrer parfois aussi d'autres artistes en résidence. Par exemple, cette semaine, il y a un groupe de musique qui s'appelle Trazimut qui est là pour quelques jours. Et la semaine dernière, il y avait une autre compagnie de théâtre. Et donc, qui travaillait sur les arts numériques et sur le son aussi, et qui est aussi une de mes passions, le son, la radio. Et donc, il y a des échanges possibles avec les gens qui sont de passage dans la résidence. Moi, j'ai un espace où je travaille, où je suis toute seule, tranquille, entièrement libre et avec un espace et du silence. Mais par ailleurs, je peux aussi rencontrer les gens qui viennent là en résidence le soir, souvent, ou lors de discussions, quand on fait des pauses, les uns et les autres. Enfin, c'est très, très riche, en fait, de pouvoir faire ça, tout en ayant une tranquillité et une liberté de mon côté.
Vous allez également être présente lors des correspondances de Manosque, devant la librairie du Petit Pois, vers Hortense Reynal. Qu'est-ce que vous allez faire du ping-pong ?
Un dialogue, j'espère, un dialogue littéraire. Hortense Reynal était à la Colle il y a quelques mois, dans la même résidence que moi. J'ai pris la suite. Et elle est poétesse et performeuse. Donc elle utilise la scène pour lire ses textes. Moi, je suis plus romancière et j'utilise aussi le son. Je fais aussi du théâtre. Donc, on a essayé de partager nos univers et de les mêler l'un à l'autre, tout en gardant nos thèmes et notre style. Mais on essaye vraiment de faire un dialogue. Elle, en choisissant des extraits qui sont plus de l'ordre de la prose et narratif. Et moi, en choisissant dans mon texte, le texte que je suis en train d'écrire en ce moment, des extraits plus poétiques, scandés, oralisés. Et donc, on essaye de mêler comme ça nos deux univers, qui sont pas si éloignés, en fait, malgré les formes différentes. C'est aussi un autre exercice, et c'est aussi très riche de pouvoir rencontrer une autrice qui est déjà passée au même endroit que moi, il y a quelques mois, et qui a eu la même expérience que moi, juste avant.